Aujourd'hui, je termine l'évangile de Luc. Jésus est ressuscité et s'est montré à tous ses disciples à plusieurs reprises. La justice implacable du Dieu trois fois saint a été satisfaite. Maintenant, Dieu peut offrir le pardon de toutes les fautes à tous ceux qui s'approchent de lui par l'intermédiaire de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup d'hymnes chrétiens contiennent l'expression de joie « Alléluia ». Je finis maintenant de lire l'évangile de Luc. « Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Versets 48 à 53. Jésus recommanda à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui leur donnerait la puissance nécessaire pour faire connaître la bonne nouvelle du pardon des péchés au monde entier. Mais en attendant, Jésus prend congé de ceux qui l'ont suivi bon an mal an pendant 3 années de ministère. Lors de l'ascension, Jésus quitta ce bas monde tout en bénissant les siens. Quand il reviendra, ce sera pour emmener avec lui dans les cieux ceux qui seront alors ses disciples sur terre, juste avant qu'il ne juge ce monde et y établisse son royaume de 1000 ans. Comme cela est souvent mentionné dans ce livre, les croyants éprouvent à maintes reprises de la joie au contact de Jésus. Ce dernier chapitre que je viens de couvrir rapporte les sentiments contradictoires des disciples, que ce soit les apôtres ou les femmes, lorsqu'ils découvrent les événements du dimanche. Ils sont d'abord perplexes, puis étonnés, puis finalement heureux, bien que remplis de doutes. Ils commencent à relire le passé et tout ce qu'ils ont vécu et entendu de la part de Jésus, à la lumière de la situation nouvelle. La crucifixion n'est pas l'échec cinglant de la mission du Messie, mais son accomplissement. Il fallait qu'il soit un prophète rejeté et un Messie qui souffre. La résurrection et l'ascension sont les marques de l'approbation divine sur la personne et l'œuvre accomplie par Jésus sur terre. L'ensemble des textes sacrés trouve son sens et sa finalité dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Après être revenu à la vie, il a éclairé ses disciples à l'aide des Écritures et c'est ainsi que, de brebis apeurées se cachant sous leur lit, ceux-ci vont devenir des lions n'ayant peur de rien ni de quiconque. Ils seront les témoins véridiques de sa vie, de son enseignement, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. L'apparition de Jésus à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs montre particulièrement bien l'évolution des fidèles de l'incrédulité à la foi. Ce couple est d'abord aveuglé et incapable de le reconnaître. Puis, à son contact et éclairé par l'enseignement des Écritures, leurs yeux s'ouvrent. Et alors, ils sont dans une grande joie. Les révélations successives du Christ à ses disciples arrivent à leur terme au moment où il apparaît à tout un groupe d'entre eux. Puis, il est enlevé au ciel. Luc, dans la suite de son évangile, qui s'appelle « Les actes des apôtres », nous donne un résumé du ministère de Jésus-Christ une fois qu'il fut ressuscité et jusqu'au moment de son ascension. C'est une bonne conclusion à cet évangile magnifique que j'ai eu le privilège de commenter. Je vais lire ce passage. « Après sa mort, Jésus se présenta à ses disciples vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Fin de citation. Dans son humanité de ressuscité, Jésus a quitté cette terre, laissant à son petit groupe de disciples le soin de continuer sa mission. C'est là le rôle de l'Église tel qu'il est défini dans le Nouveau Testament, et en particulier par les différentes lettres des apôtres. Maintenant, et sans plus attendre, je vais passer de l'Évangile à l'Ancien Testament, et plus particulièrement au 4e livre d'un groupe de 5 qui s'appelle le Pentateuch et qui fut écrit par Moïse. Le livre des Nombres est ainsi nommé d'après l'ancienne version grecque de la Septante, une traduction de l'hébreu, et qui s'appelle « Arithmois », ce qui a donné en français « arithmétique », mais qu'on a plutôt traduit par « nombre ». Son nom originel en hébreu est « dans le désert », ce qui reflète très bien son contenu. Dans la Genèse, le premier livre du Pentateuch, ce groupe que j'ai envie d'appeler le « Club des cinq », il est tout d'abord question de la création de l'univers, puis de la rébellion de nos premiers parents, suivie de nombreux commencements. C'est ainsi qu'apparaît Abraham, personnage illustre à qui l'Éternel promet qu'il deviendra la tête d'une grande nation. Mais en premier lieu, ses descendants sont une famille qui grandit et émigre en Égypte pour échapper à une famine. L'Exode est le deuxième livre du Club des Cinq, dans lequel cette famille devient un peuple mis en esclavage en Égypte et engagé dans d'immenses chantiers à la gloire de Pharaon. L'Éternel les délivre et les emmène dans le désert jusqu'au mont Sinaï, où il leur ordonne de construire le tabernacle, qui sera leur temple portatif, dans lequel et autour duquel ils adoreront leur Dieu. C'est ainsi que l'Éternel a établi et consacré sa demeure au milieu de son peuple. Dans le Lévitique, le troisième livre écrit par Moïse, l'Éternel institue le culte qui doit lui être rendu. Il leur donne la loi et promulgue les ordonnances qui régissent tous les domaines de la vie israélite. Maintenant que l'alliance est conclue, le peuple est à même de marcher à la conquête de la terre promise. Le livre des Nombres est le 4e du Pentateuch. Son contenu n'est ni purement historique comme celui de la Genèse, ni purement législatif comme celui du Lévitique. Il est à la fois l'un et l'autre et ressemble donc à celui de l'Exode, le 2e des écrits de Moïse. Il raconte les presque 39 ans de périple du peuple d'Israël depuis le mont Sinaï jusqu'aux plaines de Moab, une peuplade située au sud-est de la mer Morte. C'est le premier jour du second mois de l'an 2 qu'ils sortirent d'Égypte, mais ce n'est que bien plus tard, au 10e mois de la 40e année, qu'ils commencèrent effectivement la conquête de la Palestine. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Dans la première partie du livre et dans la perspective de la conquête, le peuple doit être organisé militairement, comme une armée dont l'Éternel est le chef. C'est pourquoi Moïse reçoit l'ordre de procéder au recensement des 12 tribus afin de déterminer les contingents de soldats disponibles. Il leur assigne la place qu'ils occuperont dans les stations et dans les marches. Ensuite, Moïse procède au recensement des Lévites, les aides de camp des prêtres, et détermine les fonctions que les différentes familles auront à remplir dans le service du culte. Tout de suite, avant le départ du mont Sinaï, où ils ont passé un an, le texte reprend le fil historique de la pérégrination du peuple. Tout d'abord, une seconde Pâque est instituée au second mois. Ensuite, l'Éternel qui siège dans la nuée au-dessus du tabernacle donne à Moïse les signaux, dont le son de la trompette, qu'il utilisera pour guider la marche dans le désert. Sont également données une série d'ordonnances et de renseignements divers qui se suivent sans ordre apparent et qui, pour la plupart, sont sans rapport avec le prochain départ de Sinaï. Il s'agit de lois isolées ou de détails relatifs au fonctionnement du tabernacle. En outre, la mise en route des institutions cultuelles est répétée une nouvelle fois. Le sanctuaire de Dieu est un temple portable, tout comme le serait une tente royale. Il est situé au milieu du campement des Israélites, tandis que tout autour et en carré sont ordonnées les 12 tribus. Les déplacements du peuple sont organisés avec l'Éternel qui marche à leur tête dans la nuée. Tous ces préparatifs faits, le peuple est enfin prêt à partir. La partie centrale du livre débute avec le départ du mont Sinaï et se termine alors que les Israélites campent dans les plaines de Moab qui, comme je l'ai dit, sont au sud-est de la mer Morte. La majeure partie du récit a donc lieu dans le désert qu'ils vont traverser. Mais il ne faut surtout pas penser un instant que le peuple évoluait pêle-mêle dans le désert. Ils avançaient de manière parfaitement bien ordonnée. L'Éternel est un Dieu d'ordre. C'est sa façon d'agir aussi bien dans la création de l'univers que dans l'organisation de son peuple, que ce soit Israël ou l'Église. Le désert n'est pas non plus une étendue de sable à perte de vue. C'est un paysage très tourmenté, émaillé d'oasis, et dans lequel la végétation était autrefois plus dense qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des nombreuses stations intermédiaires, c'est surtout le séjour à Kadesh Barnéa qui est important. C'est une localité loin, tout au sud de la Palestine. C'est là qu'ils se préparèrent à commencer la conquête. Mais, suite à leur rébellion aux ordres de l'Éternel d'entrer dans le pays de Canaan, ils retournèrent dans le désert pour y marcher et tourner en rond jusqu'à ce que la génération qui avait quitté l'Égypte ait complètement disparu, morte et enterrée. C'est celle qui est recensée tout au début du livre des Nombres, au premier chapitre. Deux hommes seulement, Caleb et Josué, échappèrent au jugement de l'Éternel. L'itinéraire qu'a suivi la nation depuis le mont Sinaï est difficile à jalonner car plus de la moitié des noms de lieux ne peuvent être identifiés. Les épisodes qui sont relatés révèlent une volonté de sélection évidente et significative. On y voit en effet s'accumuler les récits des infidélités du peuple d'Israël. Celui-ci se plaint de son sort à plusieurs reprises, doutant de la puissance de l'Éternel, et puis se révolte carrément contre lui. À un moment donné, la contestation contre l'autorité de Moïse tourne en un soulèvement de masse. Aaron et Myriam, pourtant frères et sœurs de Moïse, se rendront eux aussi coupables de rébellion. Finalement, Moïse lui-même perd son sang-froid avec le peuple et désobéit à l'Éternel, de sorte qu'aucun d'entre eux n'est autorisé à entrer dans le pays promis. Tout ceci fait que le livre des Nombres est plutôt déprimant. Son histoire s'articule sur deux pôles principaux. Le premier est le refus de la génération qui avait quitté l'Égypte d'entrer dans le pays promis. Cette décision entraînera leur errance dans le désert jusqu'à ce que ce peuple coupable ait disparu. Suit alors une succession d'infidélités. Cette longue période entre le départ du mont Sinaï et l'entrée effective dans le pays conquis a été, au point de vue moral, assurément l'une des plus tristes de toute l'histoire d'Israël. Le second pôle du livre est l'immense partouze organisée par la nouvelle génération avec les habitants du coin dans les plaines de Moab. Ce furent des actes d'idolâtrie et de débauche, un épisode de nature très semblable à celui du veau d'or raconté dans le livre de l'Exode. Comme quoi, tel père, tel fils. Ces désobéissances attirent invariablement sur le peuple la colère de l'Éternel. C'est sa réaction indignée face au mal et à l'ingratitude. Il exerce alors ses jugements de manière sévère, décimant souvent en grand nombre les Israélites qui se sont rendus coupables. À plusieurs reprises, Moïse prie en faveur de son peuple pour que l'Éternel ne le détruise pas totalement. Suite à ce fâcheux incident dans les plaines de Moab, le peuple retourna à Kadesh-Barnéa pour se préparer à la conquête que leurs aînés avaient refusé d'entreprendre. Les hommes aptes à la guerre sont recensés comme le furent leurs pères, ce qui est mentionné à la fin du livre, au chapitre 26. Il est remarquable que la nouvelle génération est un peu moins nombreuse que celle qui avait refusé de prendre possession du pays promis. Cela veut dire que la bénédiction de l'Éternel, comme quoi il deviendrait aussi nombreux que les étoiles du ciel, fut interrompue pendant tout le temps que prirent les aînés à mourir dans le désert alors qu'ils tournaient en rond. La grâce de Dieu apparaît en ce qu'il poursuit inlassablement et malgré tout cela, la mise en œuvre de son projet concernant son peuple, prenant soin de lui, pourvoyant à ses besoins, intervenant en sa faveur de manière souvent extraordinaire. Le cycle de tentation dans lequel un devin multiplie les stratagèmes avec la volonté obstinée de maudire Israël témoigne tout particulièrement de la protection de l'Éternel pour son peuple. En effet, ce sorcier malveillant se voit contraint, malgré lui, de prononcer 7 oracles de bénédiction en faveur d'Israël. Ainsi, malgré tout, l'Éternel épargne son peuple et la troisième partie du livre nous présente la nouvelle génération pour qui l'avenir est ouvert et à qui la possibilité d'entrer dans le pays promis est offerte. Après le nouveau recensement, cette section aborde surtout, quoique pas exclusivement, des questions relatives à la conquête et à l'installation en Palestine. Ainsi aura lieu la nomination du successeur de Moïse, l'énoncé des lois concernant les héritages, les mesures en vue du partage du pays, l'établissement de certaines tribus à l'est du Jourdain, donc en dehors du pays promis, à condition que les hommes participent à la conquête. L'Éternel donne aussi les lois concernant les villes de refuge, dans lesquelles quelqu'un coupable d'homicide involontaire a le droit de résider sans être inquiété par le vengeur de sang. Après la partie centrale, déprimante, on est frappé par les notes positives qui résonnent dans cette dernière section. En effet, alors que la quasi-totalité de la première génération a été décimée, on n'y rencontre aucune mention de mort de personnes appartenant à la nouvelle vague. Ils remportent une victoire éclatante sur les Madianites qui avaient entraîné les Israélites à l'idolâtrie et à la débauche. La requête des tribus souhaitant s'installer hors du pays promis et qui aurait pu susciter une crise très grave trouve une solution heureuse, de même que les problèmes d'héritage soulevés par une famille ayant des filles et aucun fils. L'avenir semble donc prometteur à la fin du livre. Tout au long du récit, des lois rituelles comme celles que contiennent les livres de l'Exode et du Lévitique viennent s'insérer ici et là, certaines parce que l'histoire les suscite, d'autres parce qu'elles ont été communiquées dans la période correspondante sans qu'on sache nécessairement pourquoi. Le livre des Nombres n'est donc pas qu'une narration historique, puisque le fil du récit est fréquemment interrompu par des lois et des ordonnances. Cependant, les éléments qui le composent ne sont pas toujours rattachés les uns aux autres par un lien chronologique ou systématique bien visible. Il donne des détails relativement bien circonstanciés sur les débuts et sur l'issue du voyage dans le désert. Par contre, il est pratiquement muet sur la majeure partie des 38 ans qui suivirent la révolte de la première génération à Kadesh-Barnéa, lorsqu'ils refusèrent d'entrer dans le pays promis. Mais nous verrons cela la prochaine fois.